Bonjour Vincent.
Bonjour Martha.
Merci de vouloir nous rencontrer pour nous parler du comité et du fonds de perfectionnement. Justement, j'aimerais te poser la question par rapport au comité et ton implication. Et qu'est-ce que c'est le comité de perfectionnement?
En fait, le comité est constitué de deux membres élus et deux membres des élus patronaux. C'est un comité paritaire. Il y a aussi une secrétaire qui est là qui prend les notes. À chaque année, on a droit à 54 charges de cours, l'équivalent de notre salaire. Donc, le montant varie d'année en année, ça suit la convention. Donc, c'est près de 600 000 $ quand même. Donc, ces fonds-là, on y a droit, c'est reconduit d'année en année. Donc, s'il y en a un surplus, ben, il y a toujours droit. Et d'ordinaire, on en a tout le temps un peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réclamées. Donc, les chargés de cours ne donnent pas leur facture, par exemple. Alors, c'est important. Je vais vous donner des petits trucs un peu plus tard, là, mais ouais, donc les dates doivent être respectées, ce genre de choses. Alors, oui, on est deux, c'est des mandats de 2 ans, et donc on alterne. Voilà. Et sinon, l'activité de perfectionnement, c'est vraiment ce qui est lié à l'enseignement, donc à nos cours, les cours qu'on désire donner, donc si vous voulez avoir un nouveau PEC, puis la fonction de participation. Ça, c'est nouveau depuis quelques années seulement. Donc, si vous êtes membre du CA, conseil d'administration, c'est ça, un conseil, tout ce qui est conventionné, en fait, dans la convention, c'est l'article 7.02, donc tout ça, les comités conventionnés, vous pouvez prendre des cours associés à ça aussi. Ça peut être lié même à la langue, à la limite, ou tout ce qui peut vous aider dans le cadre de vos cours. Pas directement nécessairement, mais c'est sûr que ce soit pertinent pour votre travail, évidemment.
Mm-hmm. Et en quoi consiste le perfectionnement?
Le perfectionnement, ben, il y en a différents types. Les plus communs ou que ceux que vous connaissez sans doute, c'est ceux de longue durée ou de plus courte durée. Le long, il est versé sous forme de salaire. Donc, c'est l'équivalent d'une charge de cours. Ça doit durer l'équivalent de 15 jours de travail. Alors, si vous allez à l'étranger pour un colloque, même de plus d'une semaine, ça... Il faut que ça soit vraiment 15 jours, c'est assez long. Si c'est un colloque, d'ordinaire, ça va être du courte durée. Ceux-ci sont versés sous l'équivalent d'une charge, une fraction de charge. Par exemple, si vous êtes aux études à temps plein, un doctorat, ça va être une charge. On peut en verser deux par session, mais c'est très rare. Parce que pour le doctorat, c'est exceptionnel, vous pouvez y avoir droit à 4 charges pour toute votre... par chargé de cours. La maîtrise, ça va être 1,6. Le certificat, c'est 0,6. Et si vous faites un article ou un chapitre produit aussi, parce que la production, création de recherche en fait partie, donc ça aussi c'est 0,6, mais un livre va être de une charge. Et si vous faites un stage, comme mentionné, de 15 jours, c'est une charge aussi. Et une autre catégorie qui est particulière, c'est la création de matériel pédagogique. Les autres vont être traités en priorité parce que c'est ce qui est indiqué dans la convention. Mais on a quand même toujours des chargés de cours qui développent des guides, des approches pour leurs cours. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que l'unité pourrait offrir normalement. Parce qu'il y a beaucoup de services que l'université offre déjà avec les professionnels derrière. Ils ont investi beaucoup de ce côté-là, comme ce qui est technopédagogique aussi. On a une catégorie pour ça. Mais je vous conseille d'aller voir avant ce que l'université offre parce qu'il y a déjà plein de ressources, d'informations à faire par des gens compétents. Alors voilà, ça c'est le longue durée. Le courte, c'est sous forme de remboursement. Donc, c'est une facture. Ça peut être les droits de scolarité, mais il ne faut pas que ça soit lié au perfectionnement long. Donc, si vous avez eu un perfectionnement de longue durée, vous ne pouvez pas demander un remboursement de votre facture de session pour vos droits. Le courte durée, c'est une enveloppe de 2 500 $ par chargé de cours. C'est quand même un bon montant, 2 500. Donc, on y a tous droit. Il y a quand même certaines règles. Donc, vous devez avoir 0,33 points dans les 3 sessions en comprenant celle-ci. Je vais y revenir, mais quand c'est des perfectionnements qui sont... En gros, vous y avez droit, même quand vous êtes un nouveau chargé de cours, par exemple. Parce que les unités, ainsi que le syndicat lui-même, peut offrir un perfectionnement. Alors, il demande au comité d'avoir accès à certains fonds, puis on s'est approuvé ou non. Mais ça fonctionne bien d'habitude. Il y en a un petit peu moins, il y en a quelques-unes par année, en moyenne, deux, quelque chose comme ça. Mais ça varie toujours. Mais pour conclure avec le courte durée, les critères d'évaluation pour le courte durée, c'est à quel point c'est lié à vos fonctions, ou votre représentation et le cadre des cours et la reconnaissance aussi de l'institution. Donc, si vous vous inscrivez à une séance particulière de coaching, il y en a qui sont reconnus que c'est excellent, mais il y en a d'autres, des fois, c'est plus ambigu. Alors, ça va peut-être demander certaines justifications. Donc, voilà. Le rapport de dépenses aussi, c'est important. Il y a une limite. C'est 45 jours après l'activité. Donc, si vous dépassez ça, c'est possible que vous ayez plus droit à votre remboursement, malheureusement. Ça explique pourquoi on a des retours des fois. Mm-hmm. Alors, j'ai parlé aussi des types que le syndicat ou les unités développent. Il y a une mise à niveau qui existe aussi. Alors, c'est pour qu'est-ce qui est pédagogique, ce genre de choses. Ça fait assez longtemps que j'en ai vu, en fait, justement parce que les ressources sont disponibles sur le campus. Il y en a tout sujet que le comité peut offrir. Récemment, avec la pandémie, on a eu des formations pour utiliser des outils. Alors, il y a eu des ententes avec le syndicat et le VRH pour rembourser cela. On s'est ouvert à la discussion. Okay. Donc, voici, c'est les différents types. Si ça vous intéresse, allez voir votre convention, c'est le chapitre 19.
OK.
C'est important. Oui, tout est ça. Et l'annexe J. Alors, si vous voulez jeter un œil, c'est ce qui. C'est plus précis que ce que je résume aujourd'hui.
J'aimerais juste revenir sur qui a droit à faire une demande de perfectionnement. Tu en as parlé un petit peu, mais qui a droit à ça?
C'est important, c'est 19.05. Donc, il faut que votre période d'essai soit complétée, en fait, pour le perfectionnement de longue durée, surtout. Là. Et c'est les points 33 points au cours des trois dernières sessions, qui incluent celle-ci. Celle de l'activité. Donc, si vous la faites d'avance, bien, ça faut tenir en compte. Vous devez être sur la liste de disponibilité au moment où l'activité... la session, ça se passe. Vous devez avoir les PEC juste pour faire le matériel pédagogique spécifique d'un cours. On ne peut pas faire le matériel pédagogique d'un cours dont on n'a pas les PEC. Mais aujourd'hui, on peut faire des demandes pour avoir des compétences, pour avoir de nouveaux PEC. Ça, c'est récent. Quand j'ai commencé ça perfectionnement, on ne pouvait pas faire ça, mais maintenant, on peut. Si vous faites une demande pour la longue durée, pour des études doctorales, par exemple, et que vous avez du financement, il faut le mentionner, c'est sur le formulaire. Et par équité, si on a beaucoup, beaucoup de demandes, ben, on va peut-être utiliser ça pour trancher, parce que notre but, c'est vraiment d'optimiser les fonds pour qu'il y ait plus de chargés de cours qui aient droit. Ensuite, vous devez vous inscrire et être disponible pour au moins un cours dans les trois sessions qui suivent le perfectionnement. Donc, ce serait sage, par exemple, si vous prenez votre retraite, avoir des perfectionnements longs juste avant, ça se fait pas. C'est pas mal le problème le plus important que je pourrais voir. Aussi, il y a un rapport à faire, surtout pour la longue durée. Si vous voulez un avancement, donc quand il y a un avancement, vous avez droit à plusieurs libérations pour faire des études doctorales, par exemple. Ben, pour avoir le prochain versement, vous devez avoir fourni des preuves d'avancement, par exemple, la maîtrise aussi. Et c'est toujours bien de nous envoyer un petit document au comité pour dire que, on a livré la marchandise, vous produisez un livre ou quelque chose est publié, bien, c'est bien d'en envoyer une copie si vous voulez. C'est sûr que le VRH qui ont peut-être moins de place pour ça, mais on a une bibliothèque au SCUL, alors les créations vont être là souvent. On a des belles publications à ce jour. Vous ne pouvez pas dépasser votre charge de travail aussi. C'est surtout pour les chargés d'enseignement. Si vous avez une grosse tâche puis que vous avez un perfectionnement accordé, il faut qu'il y ait une entente avec votre direction qu'il n'y ait pas de conflit sur le plan du travail. Surtout si la libération de travail est importante. Donc, vous devez joindre l'entente écrite au projet. Et c'est pas mal ce qui est plus... problématique.
Ouais. Je comprends. Et qu'est-ce qu'il faut savoir lors d'une soumission des demandes de perfectionnement de longue durée? J'aimerais ça me concentrer sur cette demande de longue durée. Qu'est-ce qu'il faut savoir?
Il y a beaucoup de petits détails. En fait, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a vraiment des dates de tombée très précises, parce qu'on demande pour la session suivante. Donc, c'est avant 17h, donc les dates sont en ligne et c'est même conventionné. Alors, pour la session d'été, c'est le 15 mars. Pour la session d'automne, le 1er juin, et pour la session d'hiver, c'est le 15 novembre. Alors, il faut vraiment faire la demande, la déposer pour cette date. On les évalue dans les deux semaines qui suivent à peu près. On se réunit, en fait, le comité une fois pour traiter toutes ces demandes de longue durée là, à chaque session. C'est une de nos grosses réunions. Puis les résultats, on les a quelques jours plus tard, c'est assez rapide. Et normalement, vous devriez avoir une réponse et on espère une précision si un refus. On pousse toujours pour que ça soit précis pour que les chargés de cours puissent améliorer leurs demandes.
Ouais. Justement, sur cette question, si dans les formulaires, on a coché une case qu'il ne fallait pas cocher ou s'il y a eu un type de mauvaise compréhension lors de remplir ces formulaires, est-ce qu'on a la chance de corriger?
Quand c'est évident, on peut passer outre. On a quand même une petite liberté de ce côté-là. Mais c'est clair que c'est bien de bien... C'est important de bien choisir la catégorie qui est inscrite sur le formulaire. Mais c'est pas une... L'expérience, on ne va pas l'écarter du revers de la main parce que c'est pas coché ou que c'est mal interprété. Là. Mais essayez d'être le plus précis possible. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez communiquer avec l'équipe, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est le plus important, c'est que votre projet soit bien rempli, en fait, surtout de longue durée, parce que c'est quand même, il y a des gros champs. Ouais. Ça peut être petit pour mettre un résumé de thèse, là, mais c'est les objectifs doivent y être, les connaissances, les habilités que vous voulez acquérir ou l'attitude aussi que vous voulez développer. L'échéancier est souvent oublié ou pas précisé. Voilà. Et sinon, l'approbation aussi, quand votre mémoire, ou ben, pas votre mémoire, mais votre, ben, ça se peut, mais votre projet d'étude est accepté ou votre projet de thèse, votre doctorat, ben, joignez-le à la demande.
Donc là, on a commencé à parler déjà des conseils. Est-ce que tu as des bons conseils pour les personnes qui veulent faire une demande?
C'est surtout pour la longue durée. Il faut être prévoyant parce que c'est quand même, il y a du stock là-dedans. Là. Ça prend quelques heures. C'est une bonne après-midi faire un bon projet. Il faut que la présentation soit quand même bonne. Ça va être évalué. Hein. C'est sérieux quand même. Vous allez avoir 10 000 $ pour ça. Là. C'est quand même... alors, même 11. Et n'oubliez pas d'aborder les cours, les liens directs avec votre enseignement précisé. Vous pouvez nommer les libellés et tout. L'approbation nécessaire à l'unité, spécifier le type de projet, on en a déjà parlé. Donc, en gros, c'est des études au cycle supérieur, c'est une production scientifique, une création, du rayonnement ou du matériel pédagogique. Déclarer le financement, j'ai déjà nommé. Préciser vraiment l'objectif, parce que la recherche libre ou quelque chose qui est postdoctoral, c'est pas conventionné. Donc, ça va être refusé. Automatiquement, donc c'est un problème qu'on a des fois. Ça a l'air super intéressant, mais on peut pas, ça ne nous permet pas. Donc, gardez en tête la priorité, c'est vos cours, votre enseignement, voilà. Détaillez très bien votre échéancier, ça aussi je l'ai déjà mentionné, je le répète, c'est super important. Donc, résumez les tâches semaine en semaine, les parties que vous voulez rédiger, les cours que vous suivez. Le plan de votre objectif de création, par exemple. Ah oui, signer les formulaires, c'est super important. Ça, ouais, quelque chose qui n'est pas signé, ça tombe à la date limite, ça peut être problématique. Quoique, on peut faire un aller-retour, mais ça paraît mal, puis on veut éviter ça. Là.
Donc, ouais.
Votre directeur, ça prend une signature, mais c'est pas... c'est pas lui qui met le oui ou non sur le projet. Là. On veut juste être certain qu'il n'y a pas de conflit. Puis donc, puis ça paraît bien quand il y a un avis positif. Mm-hmm. Mais c'est pas ça qui va biaiser notre évaluation du projet lui-même. Mm. Mm-hmm. Si vous voulez éviter les. C'est, dans le fond, c'est que une présentation qui est un peu boiteuse, surtout sur le plan de la langue, ça paraît mal aussi. Faites ça avec sérieux, s'il vous plaît. Le budget aussi. Pour la courte durée, la longue durée, ça s'applique moins. Ben, en fait, ça ne s'applique pas. Mais vraiment, s'il est manquant ou imprécis, ça ne passera pas. Les courtes durées, vous pouvez en envoyer plusieurs pendant des sessions, c'est votre enveloppe individuelle. Alors, il faut vraiment que ça soit... en fait, vous pouvez faire une approximation sur ce que ça va coûter. Puis, même si c'est supérieur, l'approximation, ben, on va vous donner le montant inférieur réel qui a été dépensé, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est surtout pour les sessions où vous vous inscrivez à des cours. Vous ne pouvez pas attendre à la date où la facture a été mise pour demander de remboursement parce que vous avez déjà commencé l'activité. C'est bizarre, mais ça contrevient à la convention ou les règles. Donc, il ne faut pas que l'activité ait déjà commencé. Donc, vous pouvez mettre une hypothèse sur le montant que va coûter votre prochaine session ou mettez 50 $ au-dessus, puis demandez ce montant-là, il risque d'être approuvé, puis ça va être sûrement moins cher, puis on va vous rembourser ça sur la facture que vous allez avoir plus tard. Donc ça, c'est important, parce qu'il y a des refus qui sont faits à cause de ça, ce qui est un peu dommage. On risque de mettre une petite note à ce sujet-là, là, parce que là, c'est un peu particulier. Mm-hmm. Voilà, des champs vides, s'il manque quelque chose, ça paraît mal. Puis, les pièces jointes pour un projet, genre un doctorat, pas obligé d'envoyer le projet au complet, là. Un petit résumé, c'est super. Là. Ouais, mm-hmm. Donc voilà, c'est sur quoi on pourrait faire attention. Là. Mm-hmm. Le style, vous pouvez vulgariser justement, on parlait de recherche, tous les jargons techniques des différentes disciplines. On est dans différentes disciplines nous-mêmes autour de la table, alors faut essayer de vulgariser, mais quand même de lier ça précisément à vos propres cours. Mais comme faites à vos étudiants de premier cycle, là, que tout le monde puisse comprendre ce que vous faites. Voilà. À des éléments atypiques, là, ouais, les préciser. Et toujours garder les liens concrets avec vos cours.
Uh-huh. Ouais. Et toi, tu es impliqué dans les comités de perfectionnement, ça fait quelques temps.
Oui, tout à fait. Ça doit faire cinq mandats, peut-être. Uh-huh. Oui, je pense que j'en ai pris un intérimaire au début. Oui, ça fait assez longtemps. C'est ma première implication au syndicat, en fait.
Et est-ce que tu as vu le type de demande de perfectionnement qui est plus récurrent? Ça pourrait nous donner une idée mm-hmm. de quel type d'activité les personnes chargées des cours ont l'habitude de mener?
Oui, bien en fait, ça se reflète un peu dans la façon dont on attribue les budgets, parce qu'on a une certaine liberté de ce côté-là. Le gros, c'est le long et le court qui prend l'immense majorité. Là. Et beaucoup de courte durée, des fois, on va le dépasser même le long. Et c'est souvent, avec la pandémie, ça chuter, évidemment. Là. Mais c'est une formation à l'extérieur pour un autre professionnel. Nos collègues du côté de la dentisterie, tous ceux qui sont dans des ordres professionnels doivent avoir des heures de formation. Alors, eux, ils demandent toujours des petites formations. Ce n'est pas des si gros montants, mais accumulés, ça finit par compter. Ceux qui font, même du côté des humanities, toutes les formations, les petits colloques qu'on fait vous allez à Montréal, vous voir un congrès, ben ça prend quand même un certain temps. Il y a un hébergement et quelques repas. Alors, ça aide pour aller là-bas, pour ça, écouter les différentes communications, conférences. Puis, si vous en faites une en même temps, c'est bien. Mais c'est pour participer à l'événement au complet, pour que ça soit pertinent, on ne paye pas juste le déplacement pour qu'un chargé de cours aille faire une conférence, par exemple, pour que ça soit lié aussi. Faut qu'ils apprennent dans le processus. Si c'est pour joindre des collègues, une table ronde, ça justifie déjà mieux. Donc, c'est ce genre de demande-là. Sinon, qu'est-ce qu'on voit souvent? Bien, de longue durée, c'est très varié. Beaucoup de production, ça c'est vraiment beau à voir, et des études. Donc, c'est vraiment diversifié, comme je l'ai résumé. Mm-hmm. Moi, il y a quand même beaucoup de choses. Parce que le court durée, en fait, on les traite constamment. C'est à chaque semaine, on interagit par courriel, parfois plusieurs fois par semaine. Donc, ça rentre au fur et à mesure. C'est quand même beaucoup. Il y a plus d'une centaine, peut-être pas 200, mais des fois, des grosses sessions. Donc, c'est quand même, années, pardon. Alors, c'est quand même... Il y a un bon flux. Et je vous encourage à continuer. Les fonds sont là.
Donc, ce que j'entends, c'est que tu connais les personnes chargées des cours, leur aspect production, leur aspect activité de perfectionnement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire des personnes chargées des cours à travers ton regard, parce que tu connais les personnes du point de vue de perfectionnement. Est-ce que les personnes chargées des cours sont qualifiées? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça?
Bien, en fait, c'est qu'il y en a. Ce qui est flagrant, c'est la quantité qui sont au troisième cycle ou qui ont leur doctorat. Ça, c'est vraiment impressionnant. La quantité qui enseigne aussi, même au deuxième cycle. Donc, il y a quand même il y a d'excellents chercheurs parmi nous. Et les productions qui sont faites, c'est de calibre international. Parfois, c'est vraiment superbe de voir ça. Il y a des références internationales en musicologie, par exemple, ou du côté des sciences, on a des choses assez merveilleuses. Et la diversité, la curiosité, tous les différents parcours, c'est vraiment une force des chargés de cours. Et ça, c'est une des choses qui m'a motivé à m'impliquer au départ et dans le perfectionnement, de voir ça aussi. J'ai été associé à l'école de design, en fait, et donc d'être en tout cas, de la base ville, on est moins proche du campus. Alors, de voir tout ça et de se rapprocher de cette diversité-là, c'est vraiment... Ouais, ça et la spécialité, c'est... Ouais, et le désir aussi d'avoir accès à cette information-là. Là, c'est, uh-huh. Ouais, c'est vraiment motivant. C'est agréable à lire et à réaliser, en fait.
Bon. Donc, la production du savoir,
oui.
La promotion du savoir, les chargés des cours.
Et l'intérêt pour leurs cours aussi, parce que beaucoup, c'est pour leurs étudiants, puis pour leur, être meilleur pour les étudiants. Le matériel pédagogique qui est produit, ben, c'est aussi ça. Il y a des méthodes qui ne sont pas accessibles en français, ben, il faut que je fasse mon matériel. Mes étudiants de langue seconde, ben, il faut qu'ils s'adaptent pour le Québec. Il faut que ça se fasse au Québec, mais c'est plus à la française, ou c'est aussi c'est une méthodologie anglo-saxonne. Il faut que je le fasse à ma sauce, j'ai pas le choix, ça n'existe pas. Ouais, ce genre de choses. Mais, c'est un panorama assez impressionnant.
OK. Bon, mais merci beaucoup pour cette entrevue. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, à nous raconter?
Bien, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le syndicat. Il va pouvoir vous aider dans vos demandes individuelles. Ce ne sera pas les membres du comité qui vont faire ça. Il y a quand même un conflit d'intérêts de ce côté-là. Et si vous avez des questions aussi, allez voir la convention, c'est en ligne. Donc, ouais, le chapitre 9 et l'annexe J, c'est tout ce qui a rapport au perfectionnement. Mm-hmm. Voilà.
Merci.
Et vous y avez droit probablement. Okay. Alors, allez déposer des demandes.
J'ai posé ma demande de cette session d'automne.
Excellent.
Pour la production d'un chapitre d'ouvrage collectif à l'hiver.
Ah, voilà.
J'attends la réponse.
On devrait avoir une réunion pour analyser ça, puis si ça passe, c'est 0,6 charge.
On verra.
J'espère pour vous. Merci.
Merci.